بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ شيخ الإسلام نو رميسيون الله عز وجل qui nous donne la possibilité en ce mardi 2 février de reprendre, Inch'Allah, les programmes concernant les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, يوم لا ظل إلا ظله. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a eu la possibilité, il y a quelques mois, de commencer l'étude de ces catégories de personnes qui vont représenter l'élite des croyants le jour de Qiyam. Ces personnes représenteront, Inch'Allah, l'élite parmi les mu'minis le jour de Qiyamah. Et l'objectif de l'étude de ce hadith avec autant de précision, avec autant de détails, en se référant aux commentaires de différents muhaddithis, l'objectif c'est de créer un tama', de créer l'envie de le cœur de chaque croyant d'avoir une place sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyamah. Et à travers les 5 premières catégories qu'on étudie ensemble, si on suit le plan, à chaque fois on expliquait le sens du hadith, ensuite on expliquait les vertus de l'action qui est mise en avant dans chaque catégorie à travers le Coran, les versets du Coran et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite on essaie de déterminer l'importance de la ikhlas, de la sincérité dans chacune de ces actions. Et ce qui est spécifique à ce hadith qui énumère 7 catégories de personnes, c'est que ce hadith va brasser toutes les bonnes actions. La plupart des catégories des a'mal salihah sont incluses dans ce hadith. Et le point commun entre ces 7 bonnes actions, c'est que ces personnes l'auront fait uniquement pour Allah Azza wa Jal. Ces personnes l'ont fait avec dévotion, avec concentration, en recherchant vraiment le contentement d'Allah Rabbul Izza et avec l'espoir de rétribution. C'est pour ça qu'après avoir expliqué les vertus des actions qui sont mises en avant, par exemple qu'on avait vu le roi juste, on avait vu un jeune qui a grandi dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, qui a grandi dans l'obéissance, qui n'est pas sorti des limites de la charia, même durant sa jeunesse. Lorsqu'on a vu des personnes qui se fréquentent uniquement par amour pour Allah Azza wa Jal et qui font vraiment revivre cet esprit de mu'ahad, de solidarité qui caractérisait les sahaba radiallahu anhum ajma'in. Quand on a vu récemment un jeune homme qui reçoit des avances d'une belle femme, une femme connue, une femme convoitée, et qui refuse les avances de cette femme, quand on parle d'avance, bien sûr, c'est une invitation vers le zina, vers l'adultère, qui refuse uniquement par amour et par crainte d'Allah, ben, en plus d'expliquer les vertus et les récompenses liées à ces actions, on transitait à chaque fois par l'exemple des pieux prédécesseurs. Comment est-ce que les sahaba mettaient ces actions en pratique? Comment est-ce que les tabi'in mettaient ces actions en pratique? Et comment les atba'in tabi'in mettaient ces actions en pratique? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on prenait les exemples des pieux prédécesseurs, les personnes à propos desquelles le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Khairul quruni qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum » La meilleure des communautés, la meilleure des générations, c'est la mienne. Ensuite, ceux qui viendront après moi. Ensuite, ceux qui viendront après eux. Les muhaddithin, les ulama, rahimahullah, disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en avant les sahaba, ses compagnons. Ensuite, les descendants, les tabi'in et les atba'i tabi'in. Et donc, dans chacune des 5 catégories qu'on a étudiées jusqu'à maintenant, on essayait de voir, on prend un exemple parmi les 5 catégories, lorsqu'on avait parlé de Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Ça paraît anodin. Ça paraît être une action qui est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Ça paraît être une action qui est déjà dans notre vie. On peut se dire que je suis là pour la salat al-Isha. J'aime ma mosquée. De temps en temps, je donne un peu d'argent pour l'entretien en tant qu'adhérent ou autre chose. Donc, mon cœur est attaché à la masjid. Je ne souhaiterais pour rien au monde que quelqu'un fasse du mal ou perturbe le déroulement de la prière ou autre chose. Donc, je peux penser que mon cœur est attaché à la masjid. Certes, ça fait partie des qualités qui me permettront peut-être d'avoir quelques sifat parmi cette catégorie de personnes. Mais lorsqu'on étudie la vie des sahaba, des tabi'in, des atba'i tabi'in, comment est-ce que leur cœur était attaché à la masjid, comme certains tabi'in qui pendant 40 ans n'avaient jamais raté ce qu'on appelle takbir oula, pendant 40 ans ils ont prié au premier rang et ils n'ont jamais raté le Allahu Akbar du imam. Ou d'autres personnes, lorsqu'on a lu leur biographie, ils disaient que lorsque tu entends Hayya ala Salah, le adhan, quelles que soient les prières, même le fajr, en parenthèse, ça c'est moi qui rajoute, il a dit si je ne me trouve pas déjà au premier rang de la masjid, alors va me chercher où ça? Fil maqbara, c'est que je suis déjà enterré. C'est que mon janaza est arrivé au cimetière. Si à Hayya ala Salah, je ne suis pas à la masjid, c'est que je suis mort, on est en train de m'enterrer. Ça c'était la réalité de la pratique des sahaba, bien sûr, sans le moindre doute, mais des tabi'in, des atba'i tabi'in. Et donc l'objectif c'est vraiment ça, c'est de voir, on a compris, le concept de l'action est clair. Maintenant, quelle est la réalité de l'action? Comment est-ce que l'action, lorsqu'elle est accomplie avec sincérité, lorsqu'elle est accomplie avec dévotion, n'importe laquelle de ces actions peut nous permettre d'atteindre un tel degré. Vous voyez le bab, hein, le chapitre qu'on va étudier à partir de ce soir, inshallah. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Un homme qui donne une aumône, sadaqa. Donc déjà on a cerné de quelle action il s'agit, sadaqa. Mais quand j'entends sadaqa, ça fait tilt. Je dis sadaqa, ça c'est pour moi. J'ai donné 2 euros dans la mosquée. J'ai donné un pain au chocolat à la personne qui attendait près de la boulangerie. Donc c'est bon, je l'ai déjà accompli cette action. Je fais partie de ces catégories. Attention, cette personne donne cette sadaqa avec une telle sincérité. Il cache son action d'une telle façon que sa main gauche, c'est une métaphore, hein, ne sait pas ce que sa main droite a donné. Donc, quand j'identifie une action qui me paraît tout à fait accessible, maintenant je dois réaliser que quand une action comme celle-là, qui est à la portée de n'importe quel croyant, lorsqu'on a rajouté à cette action, parce que l'action, tout le monde peut le faire, mais quand on greffe à cette action, ikhlas, sincérité, mais le summum de sincérité, et vraiment le summum en termes de ihtisab, l'attente de récompense de la part d'Allah Azza wa Jal, ben n'importe quelle action de notre dîn peut nous faire parvenir au plus haut degré le jour de Qiyam. Donc sans trop nous attarder l'introduction, on a des contraintes par rapport à la fermeture de la masjid, on essaie inshallah de respecter notre engagement. Les muhaddithin rahimahumullah, ils expliquent cette catégorie qui est certainement une des plus simples à comprendre. Et comme on l'avait dit, hein, très souvent à l'introduction, lorsqu'on démarre une catégorie, on essaie d'identifier l'action et on fait le niya, oh Allah, donne-moi les sifat, les qualités pour mettre cette action dans ma vie et que je développe cette action d'une telle façon que tu es satisfait de moi et que ce soit l'action qui va te plaire le plus dans ma vie afin que j'obtienne une place sous l'ombre de ton arsh, de ton trône, le jour de Qiyam. Les muhaddithin, rahimahoullah, disent que, voyez, la précision dans la métaphore, et ça c'est une tradition prophétique. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, délivre un message aux sahaba, très souvent il a recours à des paraboles, à des exemples. Et les métaphores utilisées par le prophète alayhi salatu wassalam sont extrêmement percutantes. Vous voyez, quand on parle du pèlerinage par exemple, celui qui va au pèlerinage, qui fait correctement son hajj, il ne fait pas de péché, ainsi de suite, raja'aka yawmi waladatu ummu, il retourne exactement comme le jour où sa maman lui a donné naissance. C'est une métaphore qui est daqiqa, qui est précise et qui atteint son objectif, il touche les cœurs, il permet aux croyants de réaliser le pardon d'Allah et la clémence d'Allah. Dans ce hadith, la métaphore est poussée à son extrême, que la main gauche ne sait même pas ce que la main droite a donné. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, qui est certainement un des plus grands savants de l'histoire de la Ummah, celui qui a commenté, en combien d'années? En 40 ans. Il a écrit les commentaires de Sahih al-Bukhari pendant 40 ans de travail assidu pour produire les commentaires, ce qu'on appelle en arabe Fath al-Bari, les commentaires de Bukhari. Ibn Hajar al-Asqalani dit al-maqsoud minhu al-mubalaghatu fi ikhfa'i sadaqa. L'objectif de cette métaphore, c'est de réaliser comment est-ce que le croyant, lorsqu'il donne le monde, il doit faire en sorte de cacher au maximum cette action. Faire en sorte que personne, et quand on dit personne, c'est même pas son épouse, même pas ses parents, même pas ses enfants, si on a des enfants, même pas les frères et sœurs. Et pourquoi est-ce que on peut sans hésiter affirmer que même les proches ne doivent pas savoir ce qu'on donne en aumône? Parce que la métaphore utilisée par le prophète alayhi salatu wassalam est poussée à un tel degré que la main, il précise que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Donc, mimbab aoula dit que donc ceux qui sont des êtres vivants, eux, ne savent pas. Et Imam al-Nawawi, rahimahullah, il donne une précision, et ça c'est un, on va dire, un masla qui est important à comprendre. La sadaqa dont il est question dans ce hadith, c'est les sadaqa qui sont nafil. Les sadaqa, parce que, après il faut savoir que quand on parle de sadaqa, dans notre jargon hanafi, sadaqa c'est ce qui est nafil, et zakat c'est ce qui est obligatoire. Mais dans le Coran, le terme sadaqa est utilisé tant pour l'aumône qui n'est pas obligatoire que l'aumône obligatoire de 2,5% par an. Et An-Nawawi, qui a commenté Sahih Muslim, là on parle vraiment des subhanallah, des piliers de la connaissance religieuse. Donc selon lui, ces vertus concernent la sadaqa qui n'est pas obligatoire. Alors que la zakat, il est mieux de le donner ouvertement. L'avis de l'imam al-Nawawi, c'est que la zakat, de toute façon, la zakat, il veut dire qu'il n'y a pas d'ostentation, il n'y a pas de risque d'ostentation, sachant que c'est un devoir. Il est obligatoire de donner. Il dit que le fait de donner la zakat de façon ouverte, ce sera également un rappel, un encouragement pour les personnes qui négligent ou qui oublient ou qui ne donnent pas assez d'importance à la sadaqa. Donc on a compris déjà, la métaphore veut dire être extrêmement sincère. Sincère, c'est quelque chose, mais également cacher cette action. Deuxièmement, cela concerne le monde qui n'est pas obligatoire. Troisième point important, là on essaie de défricher un petit peu le sens de cette phrase. Quand on parle de sadaqa, si on analyse l'étymologie, la racine de sadaqa, les ulama disent que la sadaqa vient de la racine sidr. Sidr, ça veut dire quoi? La vérité. Sadiq, c'est quelqu'un qui est véridique. Dit pourquoi est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que le mot sadaqa vient de la racine sidr, qui est en rapport avec la vérité? Parce que le prophète alayhi salat wa sallam dit dans un hadith, والصدقة برهان حديث أبو مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه كل بس هم دي لمن est une preuve حديث الإمام مسلم الصدقة برهان. Ça veut dire quoi, le monde est une preuve? Ça veut dire que lorsqu'une personne va donner la sadaqa, c'est une preuve de son iman en Allah, c'est une preuve de son amour pour Allah. Pourquoi est-ce que c'est une preuve de son amour pour Allah? Parce que la nature de l'être humain, comme Imam a lu dans la salat de Isha, je ne sais pas si c'était cette rakat ou وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Non, il a lu plutôt وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ. L'homme aime les biens. Les savants disent que ça fait partie de ce qu'on appelle l'innéité, al-fitra. Il est de la nature de l'être humain d'aimer les biens. Par exemple, je me suis garé en face, si quelqu'un froisse la portière de ma voiture, je serai triste, c'est normal. Inch'Allah, il n'y a pas rien. Ce sont des choses qui font partie de la nature humaine. Mais lorsque Allah Rabbul Izzah nous a accordé des bienfaits et qu'on voit une personne qui a besoin d'aide et qu'on fait un geste, alors qu'on ne parle pas de la zakat, parce que la zakat, si tu ne donnes pas, de toute façon, il y a des mises en garde, il y a des châtiments qu'Allah nous protège de Qiyam, que la personne est prête à faire un geste à propos de quelque chose qui n'est pas obligatoire sur lui, à ce moment, il y a une opposition, il y a un affrontement, j'exagère un peu les termes, entre hubbul mal, son attachement pour les biens, et hubbullah, l'amour pour Allah. Et lorsque la personne a réfléchi, en voyant la personne qui est dans le besoin, il a réfléchi, il voit combien il a, combien il dispose, est-ce que ça vaut le coup, astaghfirullah, de donner ou non, et que la personne décide de le faire, si je fais ça pour Allah, ben, à ce moment précis, il a obtenu une victoire sur son nafs. Il a obtenu une victoire sur son attachement pour les biens de ce monde, et il a mis en avant l'amour pour Allah. C'est-à-dire qu'il a réussi un ikhtibar. Il a réussi une épreuve, un examen, un test de la part d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui est aussi aimé par Allah Azza wa Jal que le serviteur qui, dans une phase de réflexion, où il a la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre bien agir et ne rien faire, il choisit l'obéissance pour Allah. Ou lorsqu'il est face à un péché, il peut le faire avec grande facilité, ou il peut ne pas le faire non plus, mais la seule motivation pour ne pas le faire, ce sera sa relation avec Allah, et que ce serviteur prend la bonne décision. Ça nous rappelle une des catégories. Ce jeune homme qui reçoit les avances d'une femme qui est belle, qui est convoitée, et on avait donné des exemples, on a dit quelqu'un, imaginez, qui est en voyage d'affaires, il reçoit des avances, il est dans l'hôtel, il n'y a personne, il n'y a pas un prawala, il n'y a personne qui le voit, et il est deux chambres jumelées, oula, c'est assez chaud comme scénario, malgré ça, il se dit qu'il y a Allah, mon Rabb, qui est au-dessus de moi, Allah me voit, et les anges écrivent les actions, ces actions me seront présentées, mais avant même de penser aux anges, il se dit, mon Seigneur, muttali'un alayya, m'observe et me voit, il y a le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah, il se dit que pour le la ilaha illallah qu'il y a dans mon cœur, pour l'honneur qu'Allah m'a accordé, d'avoir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans mon cœur, pour les ni'mas qu'Allah m'a accordé, iman, islam, siha, la santé, la possibilité d'être là et toutes les autres bienfaits, comment puis-je désobéir à Allah Azza wa Jal? Et avant même de penser aux bienfaits, il se dit tout simplement, on appelle ça al-haya min Allah, avoir honte de désobéir à Allah, avoir honte de faire une action avec la conviction qu'Allah me voit, qu'Allah m'entend et qu'Allah yahu alimun bidat as-sudur, et Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Pour arriver à un résultat où la foi prendra le dessus sur les pulsions, les shahawan, d'autant plus que quand on parle des pulsions les plus dangereuses sont les pulsions sexuelles, il faut vraiment une préparation spirituelle, il faut vraiment une sincérité de l'iman, de la foi. Et lorsque je réussis ce combat contre shaitan, les waswasa, contre mon nafs, ammaratum bissou, qui me pousse à accomplir de mauvaises actions, et à l'ambiance, l'environnement dans lequel je vis, qui pousse vers cette staffullah, émancipation de la sexualité, quand j'arrive à combattre tout ça, et la seule chose que je mets de l'autre côté de la balance, c'est l'amour pour Allah et la crainte d'Allah, subhanallah, je réussis un test qui est tellement apprécié par Allah que pour cette action, Allah m'accorde inshallah une place sous l'ombre de son trône, yawma la dhilla illa dhillu, alors que quand j'ai juste refusé les avances de cette jeune fille, je n'ai pas par la suite passé la nuit dans tahajjud et le reste de mon séjour dans le jeûne, j'ai fait carême tous les jours. Abadan, j'ai juste refusé le haram. Je n'ai pas accompli une action extraordinaire. Mais le refus du haram pour Allah Azza wa Jal, alors qu'on a la possibilité de le faire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, dans ce combat contre mon nafs, où je peux soit garder mes 10 euros ou les donner, mais dans ma tête, maintenant, il y a deux façons de réagir, de réfléchir. Soit je réfléchis comme un mathématicien, un comptable, un expert comptable, un commissaire au compte, avec tout le mahabba que j'ai pour mon cousin qui est à ma droite. Si je réfléchis comme un comptable, je me dis 10 euros que je donne, ben, il est logique, c'est 10 euros en moins dans mon compte en banque, mon pouvoir d'achat est diminué. Il en reste d'alik. Soit je pense de cette façon, ou alors je me projette à travers les hadiths qui promettent un terme qui n'est pas connu des experts comptables, des commissaires aux comptes, même le ministre des Finances, il ne connaît pas ce terme-là. La baraka, la bénédiction. Si je me projette à travers les hadiths qui promettent la bénédiction pour celui qui donne le chemin d'Allah, assurément je trouve la motivation pour le faire. Donc, ikhwani fillah, pourquoi est-ce que sadaqa, ça vient de la racine sidq, véridique? C'est parce que le prophète m'a dit que l'aumône est une preuve, hadith de muslim, l'aumône est une preuve, une preuve que tu as iman, une preuve que tu aimes Allah, une preuve que tu as la conviction que quand on donne l'aumône ne diminue pas les biens, mais l'axe. Bien au contraire, cela m'apportera une bénédiction et on aura l'occasion par la suite de décrypter c'est quoi la baraka, c'est quoi la bénédiction. C'est pas que quand je donne 10 euros, j'attends d'ici ce soir, théoriquement je dois avoir 100 euros. J'ai donné un billet rouge, il faut qu'un billet vert rentre dans ma poche, ou un jaune. Alors s'il y a un mauve, on ne va pas faire difficile dans les couleurs, d'accord. C'est pas forcément ça la baraka, c'est pas un retour d'investissement. La baraka, ça peut être autre chose, ça peut être une quiétude qu'Allah met dans ton cœur, ça peut être la qana'a, la satisfaction avec peu, Et ça, c'est une qualité qui est très rare. On a des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires. Ils achètent, ils investissent, ils gagnent énormément. Le cœur n'est jamais satisfait. Le cœur ne sera jamais habité par la tranquillité. Et je ne parle pas d'une tranquillité par rapport à la sécurité. Non, non. Le cœur n'est pas rempli de joie et de contentement parce qu'il n'y a pas qu'un. Ça peut être la santé, ça peut être la réussite dans tout ce que tu entreprends. Ça peut être une réussite, une baraka qui va couvrir toi, ta femme et tes enfants. Tout ça, ce sont les retours de baraka qu'on peut obtenir quand on a donné dans Fisabilillah, dans le chemin d'Allah, peut venir en aide à une personne. Mais cela à condition, bien sûr, qu'on se projette à travers ce qu'on a dit, quoi, à travers les textes coraniques et prophétiques. Donc, pour espérer atteindre ce niveau, il ne suffit pas juste de donner. Il faut donner, mais cela doit être accompagné d'un état d'esprit, d'un état spirituel qui est la sincérité, ce que je dis, on a dit en introduction. Et également, cela nécessite al-ilm shar'i, un minimum de connaissances religieuses. Parce que quand tu fais une bonne action, plus tu connais les fada'il, plus tu connais les vertus, plus tu connais la façon de le faire, les adab, plus tu connais la façon que le prophète le faisait, les sahaba le faisaient, ben tu l'accompliras avec dévotion, avec concentration et avec ihtisab. Ihtisab ou l'ajr, avec espoir de rétribution auprès d'Allah, il y aura une force, il y aura une conviction, il y aura une puissance dans les actions. C'est exactement ce qui nous manque de nos jours. De nos jours, on jeûne en Ramadan, on mémorise le Coran, on l'enseigne à nos enfants, on prie, on lit avec des voix extraordinaires, on fait plein de choses, mais ces actions restent creuses et vides. Parce que ces actions manquent les bases, dans ces actions il manque la sincérité, l'espoir de rétribution. C'est devenu parfois presque comme un rituel. Voyez, là on est à 3 ou 4 mois du mois de Ramadan. On s'apprête à le vivre comme un rituel. Après, il faudra chercher un bœuf ou bâclé. On va le vivre également comme un rituel. Et ainsi de suite. Alors que les sahaba, parfois, ils faisaient, vous savez, parfois, ils faisaient moins d'actions, mais avec une telle dévotion, une telle concentration, un tel iman, une telle conviction en Allah, que ces actions-là dépassaient tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on pouvait imaginer. Et on va voir donc certains aumônes donnés par les sahaba. On ne va pas tout mélanger, on ne va pas perdre le fil, mais parfois, on aime se perdre pour tirer l'essentiel ailleurs. Un exemple, quand le prophète dit ittaqun nar walaw bi shiqq tamra, protégez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce en donnant quoi, une montagne d'or, en donnant quoi, la moitié de vos revenus tous les mois, en donnant quoi, ne serait-ce un morceau de date. Les savants disent ce hadith là c'est un casse-tête. Pourquoi c'est un casse-tête? Parce que on a un comparatif entre deux entités. On a à gauche, on va dire à droite, on a le Jahannam, avec tout ce qu'on connaît. C'est la description de l'enfer, comment les anges gardiens de l'enfer, ils retiennent le Jahannam, jour de Qiyam, avec les chaînes, avec les zafir Jahannam, décrits dans le Coran. C'est vraiment quelque chose d'effrayant. Dans certains commentaires, il même dit que les prophètes tomberont à genoux lorsqu'ils vont voir le Jahannam, tellement ils auront peur. Ils vont tous penser à eux, nafsi, nafsi. On connaît le Jahannam, on a compris, on a vu les descriptions, on connaît un peu. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, si je pouvais dire, de la balance, pour le thème un peu fort, mais c'est ça, pour contrer le Jahannam, pour se protéger de l'enfer, on n'a pas une action qui est énorme. On a un morceau de date, tamra, kajour, un morceau de date qu'on donne dans le chemin d'Allah. Et les savants disent, comment est-ce que ce morceau de date donné dans le chemin d'Allah peut nous protéger de l'enfer? On allait presque dire, ça vaut pas, illa, ça vaut. Ça vaut parce que quand une action est faite avec amour pour Allah, avec sincérité, avec dévotion, en s'appliquant, en le faisant comme les pieux prédécesseurs le faisaient, subhanallah, cette action qu'on qualifie de petite, injustement, elle peut déplacer des montagnes et elle peut nous préserver du Jahannam. Alors qu'une action qui est grandissime, extraordinaire, qui est admirée, applaudie de tous, à partir du moment où il manque les qualités, cette action n'aura aucune valeur. Le prophète alayhi salatu wassalam parle du grand qari, du grand savant, le jour de Qiyama, celui qui était connu de tous comme étant le grand savant. Allah Rabbul Izzah lui fera reconnaître les ni'ma qu'il lui a accordé. Il dit que, oh Allah, je l'ai utilisé dans ton chemin pour toi. Allah Rabbul Izzah lui dira que tu as utilisé cette connaissance ou cette maîtrise du Coran pour faire voir aux gens. Comment on appelle ça? Ostentation. Il y a un os, ouais, l'ostentation. Il y a, par rapport à ça, une vie de talabul ilm, d'apprentissage de la connaissance religieuse, qui fait partie des meilleures des bonnes actions, et une vie de propagation de la religion. Alors que le prophète dit que inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta al hitan fil bahr yusallun ala muallimi an-nas al khair ou comme a dit le prophète والسلام Allah rabbul izza, les anges créatures des cieux et de la terre, tous ils envoient des salutations, ils font doua pour celui qui enseigne la religion, le bien aux gens. Les hadiths sont énormes, ceux qui décrivent l'enseignement de la religion, mais à condition d'être sincère. S'il n'y a pas les qualités, il n'y a pas l'ikhlas, cette action se retourne contre la personne qui, le jour de Qiyama, voit des reproches qui lui seront faits alors qu'il attendait des éloges, et cette personne sera parmi les premières personnes à être précipitées dans le Jahannam. Sallallahu alayhi wa sallam. Chose étonnante, c'est le moment d'arrêter. On essaie d'être sérieux. Également, parmi ceux qui seront précipités en premier dans l'enfer, celui qui a donné dans le chemin d'Allah, il donnait quantité. Les gens disaient que ça, c'est un homme généreux. C'est quelqu'un qui a karam de son cœur. Il le faisait pour que les gens disent justement qu'il était généreux. Et cette action se retournera contre lui. Alors que là, on a quelqu'un qui donne dans le chemin d'Allah, pas forcément beaucoup. Parce que quand on dit il donne ce que sa main gauche, c'est pas ce que sa main droite a donné, sans préciser al-kam, kimmiya, quantité, on ne sait pas. Pas forcément beaucoup, mais il le fait avec sincérité, il le cache, il le fait pour Allah. Lui, il obtient une place au nom du trône d'Allah, tandis que l'autre qui a donné des sommes faramineuses dans le chemin d'Allah, mais par ostentation, il verra ses actions sans intérêt, et il sera précipité dans le Jahannam qu'Allah nous protège. Donc là, nous avons une idée un petit peu de la sadaqa et des qualités que nous devons réunir dans cette action qui nous paraît simple, qui est simple, mais qui nécessite une préparation spirituelle et ilm shar'i, un certain quota de connaissances religieuses, afin que cette action prenne de l'ampleur. On va s'arrêter à là, inshallah. Dernier point, les muhadithins disent également, celui qui donne la sadaqa doit réaliser qu'il entame une transaction avec Allah. Parce que pour la prochaine fois, inshallah, le mardi d'ensuite, on fera que du tafsir, à peu près 10 versets du Coran qui parlent de l'aumône. Et par la suite, la fois d'ensuite, on essaiera de voir, on a retenu 12 ou 13 hadiths concernant l'aumône, mais avec différentes approches, pour qu'on ait vraiment une idée de l'importance de cette action. Et on se rend compte que quand on donne, il y a un engagement de la part d'Allah. Quand je donne à cette personne qui est assise là, c'est pas une transaction entre moi et cette personne, que je réalise que cette personne là, Allah l'a envoyé sur mon chemin, Allah l'a mis dans mon taqdir, Allah envoie cette personne comme une épreuve pour voir est-ce que je penche vers le bien ou je retiens mes biens. Et si alhamdulillah j'ai penché vers la bonne action, j'ai donné, qu'on comprenne et qu'on réalise que cette personne là c'est lui qui m'accorde un bienfait, c'est pas moi qui lui accorde un bienfait. Quand je lui ai donné 100 euros, 200 euros, j'ai l'impression, et on verra les pieux prédécesseurs, quand ils donnaient, ils voulaient surtout pas ressentir. Je parle pas d'ostentation, je parle pas de fierté, je parle de satisfaction personnelle. On va voir comment Ibn Qayyim rahimahullah, il casse, il fait un tazkiya mais magnifique. Il explique quand tu as donné, comment est-ce que tu dois maintenant réagir pour réaliser que ce que tu as donné, tu dois avoir honte normalement de ce que tu as donné. Imaginez que Hafez Akhtar, en sortant de la masjid, il voit quelqu'un à la nécessité, un monsieur bien sûr, Akhtar, on reste sérieux, et il a eu sa paye aujourd'hui, c'est 3500 euros mensuels, Inch'Allah, et il a donné 100 euros. Et il se dit, 100 euros, imagine le nombre de pizzas qu'il pouvait gagner, le nombre de bouchons, le nombre de plein de choses, il se dit 100 euros, c'est énorme. Et il ne va pas dire aux gens, mais intérieurement, il est content. Ibn Qayyim rahimahullah, il donne une leçon, on se perd un peu dans les détails, mais c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Il dit que quand tu donnes ces 100 euros, ne sois pas fier de toi. Pourquoi ne sois pas fier de toi? Réalise que tu as gagné, j'ai dit 3500, sur 2000 euros, tu as donné 100. C'est-à-dire 1900, tu as gardé pour toi. Alors que théoriquement, si on analyse comment le sahaba qu'il fallait donner, que le prophète a dit aux musulmans, on va à Tabouk. Qui peut aider les croyants qui n'ont pas les moyens? Abu Bakr al-Siddiq, il amène quoi? Tout. Omar al-Khattab, il amène نص. عثمان بن عفان الأمن ثلث. Les savants disent que peut-être que le ثلث, le tiers de Uthman, vaut peut-être plus que tout ce qu'Abu Bakr. Uthman était un homme très riche, mais Abu Bakr, quand il donne tout, c'est pour Allah. Il dit, je laisse pour ma famille Allah et son prophète. C'est un degré de conviction, de yaqin, d'amour, de certitude pour Allah Azza wa Jal, en Allah Azza wa Jal, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, quand je donne, je réalise que j'ai gardé beaucoup plus. Et donc, je dois avoir honte. Je dis, oh Allah, c'est tout ce que j'ai pu donner, accepte. Et du coup, on se remet un peu en question. Donc, Inch'Allah, par la suite, on essaiera de détailler tout ça. Donc, quand je donne, c'est une transaction que j'engage pas avec monsieur X, Y, Z qui est pauvre, avec Allah. C'est pour ça aussi que quand vous trouvez, imaginez, vous venez une fois par semaine Montreuil, et il y a tout le temps la même personne qui est dehors qui dit, c'est bah, ici, il y a un petit quelque chose, il m'a besoin de manger un sandwich, un truc comme ça et tout. On n'a pas à se dire, tout le temps, il me demande tout le temps. Tout le temps, il va me demander, mais il a oublié que la semaine dernière, je lui ai donné. Akhi fillah, ne regarde pas cette personne qui s'appelle Ismaïl, Ishaq ou Abdullah. Regarde que c'est quelqu'un qui a été envoyé par Allah. Si tu as, alhamdulillah, tu fais une bonne action et c'est une transaction que tu viens d'engager avec Allah et Allah te promet de t'accorder plus que ce que tu as donné et avec ce qu'on expliquera par la suite, la baraka, la bénédiction et ainsi de suite. Donc, si on peut sortir de cette assemblée avec une conviction que le mon, c'est un bienfait qu'Allah nous donne la possibilité de faire, et que le pauvre, c'est pas lui, c'est pas au pauvre de nous remercier. On verra, il y a des tabi'in, quand ils donnaient le mon, ils allaient remercier la personne pauvre. Ils disent que grâce à toi, j'obtiens des récompenses auprès de certains. Certains disent que, subhanallah, ces personnes-là prennent des récompenses pour nous et ils les amènent jusqu'à notre balance. Jour de Qiyama, parce qu'ils étaient là sur notre chemin pour nous permettre de faire notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Rabbul Izzat nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles et que ces paroles pénètrent nos cœurs et qu'Allah Rabbul Izzat nous accorde la sincérité, la dévotion dans chacune de nos bonnes actions et qu'Inch'Allah, les prochaines fois, on verra les versets du Coran et qu'Allah renforce notre yaqin, notre conviction sur cette bonne action et que le jour de Qiyama, Inch'Allah, on se retrouvera tous ensemble sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal parce qu'on aura réalisé une de ces sept bonnes actions ou alors les sept bonnes actions en ce moment. Tawfiqillah billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.